Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et dans quelques minutes, Jamel Debbouze sera notre invité. Il est de retour seul en scène après 6 ans d'absence dans Maintenant ou Jamel. Un spectacle assez intime sur les bouleversements de sa vie. Coup de cœur de Monique Younes. Et puis à la télévision ce soir, sur France 2, le magazine Secret d'Histoire fête ses 10 ans et met à l'honneur Louis XIV, l'homme et le roi. Ce sera le choix d'Isabelle Morilly-Bosque.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Mais avant tout, il y a 15 jours, on vous présentait donc les 12 disques en lice pour le prix de l'album RTL de l'année 2017. Vous avez battu tous les records avec plus de 60 000 votes sur notre site RTL.fr et c'est maintenant la finale. Anthony Martin, bonjour.
Bonjour.
Vous nous dévoilez les 5 finalistes.
Oui, voici les 5 albums qui ont recueilli le plus de votes. On les découvre par ordre chronologique de sortie entre octobre 2016 et septembre 2017. T'aimais sur les bords. Vous l'avez reconnu, l'album Et ou Esperluette de Julien Doré. Qui respire pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. Pourvu qu'elle soit le genre de compagne qui part sur les routes de campagne. L'album Pourvu de Gauvin Cerce. Ne peuvent pas se croiser, les bottes de foin, les bottes aux pieds. 4, 3, 2, 1, je joue de la musique. L'album Liberté chérie. Respire, signé Calogero. L'album J'aime de Nolwenn Leroy, ça fait plaisir à Isabelle Morin. Et le cinquième qualifié, l'album 13 d'Indochine. Te ressemble parfois. Moi je suis né pour n'être
qu'avec toi. Voilà donc les 5 qualifiés pour décrocher le prix de l'album RTL de l'année. Dites-moi, il y a des disparus de grands talents. Hein.
Oui,
et dès aujourd'hui, et oui, ces 5
albums. Hein.
Ben voilà, ces 5 albums sont confiés donc à un jury d'auditeurs.
Oui, exactement, chargé d'élire l'album RTL voilà. 2017 en partenariat avec l'émission de TF1 50 Minutes Inside. On révélera le nom du lauréat album RTL de l'année 2017 ici même le 7 décembre. Ce sera le 12e lauréat de ce prix RTL. Il succédera à Renaud qui avait remporté le trophée l'année dernière.
Allez, c'est à vous de travailler. Hein. Julien Doré, Gauvin Cerce, Calogero, Nolwenn Leroy et Indochine. Merci beaucoup Anthony. Dans un instant, on accueille donc notre invité, Jamel Debbouze.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Nous avons le plaisir ce matin de recevoir Jamel Debbouze. Bonjour Jamel.
Bonjour Yves.
Pour votre nouveau spectacle, c'est maintenant au Jamel.
Yes.
Actuellement tourné en France. Ça fait 6 ans, Jamel Debbouze, que vous n'étiez pas remonté sur scène. D'abord, un, est-ce que vous êtes heureux de vous y retrouver? Et deux, est-ce que le public a changé?
Je suis très heureux d'être ici, hein, pour commencer. Oui, je suis très heureux de remonter sur scène. C'est vrai que 6 ans, c'était trop long. Et oui, le public a changé. Enfin, j'ai le sentiment, comme ça, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est plus éclectique, plus ouvert, qu'il y a des nouvelles personnes, des nouvelles générations ouais. qui débarquent. Et puis, j'avais 20 ans quand j'ai commencé. Ouais. Aujourd'hui, j'en ai un peu plus de 40. J'ai des enfants. Et ces gamins qui venaient me voir il y a 20 ans reviennent avec leurs enfants. C'est très touchant.
Ah oui, c'est touchant. Là, ça change les choses. Alors, s'il y en a une qui n'a pas changé, bah, c'est bien Monique Younes. Qui est allée vous voir
à Enghien? Elle a pas changé,
non, elle aime bien que tu fasses un petit compliment de temps à autre, ma Monique. Et elle n'a pas été déçue de sa soirée.
Mais c'était le kiff, cette salle survoltée à Enghien. Les bains, comme vous le disiez, des bobos, des babas, des prolos, des allos, des enfants, il y a même des Français, mais de toutes les origines. Ils étaient venus prendre de vos nouvelles, Jamel, découvrir où vous en étiez après 6 ans d'absence sur scène, maintenant qu'on a un nouveau président.
Emmanuel Macron, il est plus petit que moi. Il est plus petit que moi, il est plus petit que moi. Et t'es comme si je le vois. Emmanuel, va dans ta chambre, sinon je vais encore. 39. À 39, c'est pas un âge présidentiel, 39. C'est une pointure, tu vois.
Vous l'avez rencontré, Emmanuel Macron?
Oui. Il est charmant, ce monsieur. Il m'a fait un bel effet. C'est vrai. J'attends de voir, mais... Oui.
Bah on est tous dans la même situation.
Mais quand même, je trouve qu'il colle à son temps. J'ai envie qu'il réussisse.
Bon, alors vous qui avez souvent été quand même le plus jeune de la classe, là vous voyez un président de la République qui est plus jeune que vous.
Ben ouais, c'est un truc d'ouf.
Ben oui.
C'est pas naturel. Il est plus petit que moi et... Il est né la même année que Faudel. C'est un sujet quand même, non ?
Bah oui, je comprends que ça vous ait marqué.
Alors Macron est certes président, mais le Front National, Jamel, a récolté 33%.
Ouais.
Ce n'est pas gentil, 33%, dites-vous dans le spectacle. Certaines
c'est une
villes...
de mes phrases préférées.
Mais oui, c'est pas gentil. Alors, certaines villes organiseraient d'ailleurs un championnat de France de racistes.
Et Marine Le Pen, tous les ans, elle veut le faire, ce championnat. Bonjour, les organisateurs, tous les ans, ils nous disent « Non, Marine !» Toi, t'es comme Obélix, t'es tombé dedans quand t'étais petit. Pas le faire.
Vous m'avez toujours dit, ouais. Jamel, que vous ne trouviez pas la France raciste. Est-ce que aujourd'hui, la parole décomplexée que vous entendez de plus en plus vous a fait changer d'avis ?
Non. Non, je pense que ça a été un réflexe. Je ne dis pas que c'est pas grave, mais on peut lutter contre un réflexe. Il nous est arrivé des choses assez graves. Les événements nous ont tous bousculés. Oui. Et je pense que c'est un moment à part. Je la sillonne depuis 25 ans, la France, et je la trouve chaleureuse, accueillante, ouverte. C'est une vieille dame, la France, il faut la rassurer. Tu vois, et je ne pense pas qu'elle soit raciste. Je pense qu'elle a eu peur.
Alors, ce qui est amusant, c'est de trouver des formules comme « c'est pas gentil 33% », parce que c'est une façon de dédramatiser la chose, tout en faisant rire, et en même temps, en rappelant que ça a quand même eu lieu. C'est ça ?
Ben oui, il y a un électeur sur trois qui a voté Marine, oui, quand même, oui. Et ça, c'est pas gentil.
Jamel, nous sommes aujourd'hui au lendemain du 13 novembre. Beaucoup de voix se sont levées pour demander aux artistes d'origine maghrébine ou arabe de se désolidariser des terroristes. Comment avez-vous réagi sur le coup ?
Mais non, on peut pas se désolidariser d'un truc qu'il nous concerne pas. On va pas faire une manifestation d'innocents, quand même. On va pas sortir dans la rue en criant oh, on n'a rien fait, on n'était même pas là. Moi, j'aime la France, j'adore le rock'n'roll.
Vous le dites d'ailleurs dans le
Donc
spectacle.
Donc ça vous a choqué ?
Je vous dis, moi, j'ai quelques outils à ma disposition et puis j'ai compris la peur, j'ai compris cet état de choc dans lequel on était tous. Donc je ne peux pas cataloguer ces réactions. Je me dis que c'était vraiment un moment complètement à part. Nous demander ça à ce moment-là, je ne le comprends pas, évidemment, mais je peux l'expliquer. S'il y a un roux serial killer, on ne va pas demander à tous les roux de descendre dans la rue pour dire qu'ils n'ont rien fait. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Et puis moi, je ne peux pas m'inscrire là-dedans. C'est impossible. Je ne sais pas de quoi vous me parlez.
Les rouquins sont prévenus.
Alors, le monde change, Jamel Debbouze, et vous en faites l'écho dans votre spectacle. Non seulement Trump est président des États-Unis.
Président des États-Unis ?
Oui, oui, oui. Et si on vous croit, sa mauvaise humeur serait due à sa chevelure. Oui. Un long cheveu qu'il met du temps à enrouler autour de sa tête. Et ça ne le rend mais vraiment pas sympa. Même au Maroc, il paraît que ça bouge aussi. Les politiques prennent leur courage à demain ou après-demain pour dénoncer les choses qui les énervent. Il ne pleut pas assez, Jamel, au Maroc. Des journalistes posent des questions déstabilisantes. Mais le changement le plus important, c'est chez vous, Jamel, dans votre famille, qu'il a lieu. Vous êtes un fils de pauvre qui est devenu le père d'un fils de riche et d'une fille de riche.
Elle, si je pouvais en faire un pendentif toute ma vie, je resterais. Je la garderai toute ma vie avec elle. La lumière, j'ai envie de la manger, putain. Dommage, c'est interdit par la loi. Qu'est-ce que je la kiffe. Parfois, quand je rentre de tourner comme ça le soir, elle dort, je la réveille. Elle m'a tellement manqué, je la réveille. Lila, Lila, ma chérie, elle se réveille comme ça. Je dis, oh, ma chérie, t'as fait un cauchemar.
Un passage très émouvant. Oui. Vous avez donc une fille, Lila, et un fils, Léon Ali, chacun à sa chambre, alors que vous dormiez sur des lits superposés. Ils portent des habits siglés, alors que vous étiez habitué au polo La Poste. Vous vous pliez à tout leur délire, Jamel, alors qu'avec votre père, même les discussions étaient impossibles. C'est vertigineux, parfois un peu angoissant, on dirait.
Oui, c'est vrai, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire le chemin. Nos parents ont fait un voyage absolument dingue en trois générations. Mon père est né à Taza, dans une étable, comme Jésus. Moi, je suis né à Barbès, dans une cuisine pas équipée, d'ailleurs. Et mes enfants sont nés à l'hôpital américain, dans un iPad. Donc, c'est vrai qu'ils ont fait un voyage fou et que oui, on n'a pas forcément le temps de s'adapter, on n'a pas forcément les codes, on n'a pas forcément les outils, mais on prend cette vie avec légèreté et surtout on se rend compte qu'on a une chance extraordinaire. Donc je la goûte cette vie même si j'ai pas forcément tous les outils.
Et cette confidence que vous faites au public, elle vous libère, vous la sentez nécessaire ?
Ah oui,
parce que...
salvatrice même. Moi j'ai une chance extraordinaire d'avoir à ma disposition 1000 psychologues par soir. Tu vois.
Vous faites votre autopsie, oui. Dites-vous, sur scène. C'est très joli, ça.
Exactement. Exactement, parce que j'ai vraiment besoin de l'exorciser, d'en parler, de le partager. C'est fou, ce qui m'arrive. C'est vrai. Et puis, j'arrive même pas à l'analyser. Là, je vous en parle. Je me suis jamais arrêté dessus. Mais c'est vrai qu'on a fait... Mes parents ont fait un chemin dingue et je ne les remercierai jamais assez pour ça.
Ils ont assisté au spectacle, vos enfants ?
Hier, pour la première fois, ouais.
Ah.
J'étais tétanisé.
Et alors ?
Et eux, alors ? Comment ils ont réagi ?
Alors, ils découvraient, et puis ils ont leur papa, et ils rient, en même temps, on parle d'eux. Je ne sais pas exactement ce qui se passe à l'intérieur, mais ça mélange de fascination, de fierté et de découverte.
Ça doit être perturbant aussi.
Ouais, c'est sûr.
Parce que ce n'est pas normal de revoir un papa comme ça au milieu de milliers de personnes qui applaudissent.
Ouais.
En vrai, si je peux.
Ouais. Et puis, d'une certaine manière, je ne leur appartiens plus à ce moment-là. Mmh. C'est très déstabilisant, c'est sûr. Mais on en parle beaucoup. Et puis, ils ont une maman formidable qui met les mots dessus. Et qui est très pédagogue.
On reste en famille, Monique ?
Oui, parce que les parents de Jamel ont de tout temps assisté à votre spectacle. Et là, votre mère, sur scène, elle se révolte dans le spectacle. Elle veut faire comme ses copines, Brigitte et Ségolène. Mais comme dit la chanson, être une femme libérée, c'est pas si facile, Jamel, n'est-ce pas ?
Tout à fait.
Mais on sent que, voilà, ça a du mal à prendre, ça.
Ah ben, on essaye tous de s'adapter, tant bien que mal. Et puis, c'est vrai que ma mère a plus... Forcément, elle a connu plus longtemps autre chose que nous. J'habite dans un nouveau quartier. Elle a ses petits-enfants, Léon, Ali, qu'elle amène à l'école. Ses deux nouvelles copines, Brigitte et Ségolène, aujourd'hui. Elle veut vivre de nouvelles choses. Elle veut manger sans gluten, faire de la Zumba, faire du shopping à Monoprix.
Mais même, elle veut apprendre l'arabe à vos enfants.
Elle veut apprendre l'arabe à mes enfants et elle veut un chien. Elle veut un Yorkshire. Mais un York très chien.
C'est ça.
Est-ce que ça fait du bien de retrouver le public, physiquement, en tant que Jamel, tout seul, dans une grande tournée ?
Oui, franchement, c'était trop long. Ça me manquait vraiment physiquement. Et puis, je ne pouvais pas remonter sur scène. J'avais pas grand-chose à raconter. Jusque-là, il a fallu vraiment passer par une vraie jachère, quoi. Et là, c'est très jouissif de se retrouver là devant ces gens. J'ai l'impression de retrouver des gens de ma famille, des amis, des gens qui ne m'ont jamais quitté.
Vous avez trop sacrifié au cinéma ?
Non. J'ai pas beaucoup tourné, bizarrement. Mais je me suis beaucoup investi sur le Jamel Comedy Club, que je trouvais très utile. Il y avait pour moi là un combat à mener que j'avais très envie de mener à bien, je sais pas, mais en tout cas de mener, c'est sûr. Yeah. Et puis le Marrakech du Rire, qui est aussi une espèce de rencontre comme ça à Marrakech. Ce festival est né une semaine après les attentats de l'Argana à Marrakech, sur la plage Jemaa el Fna. Et puis aujourd'hui, il touche 80 millions de téléspectateurs grâce à TV5. Et c'est vrai qu'on est né d'une frustration ou d'un mal-être ou d'un choc. On est d'un truc bizarre et puis ça finit par irradier. C'est formidable.
Il y a une affaire de plagiat qui est en train de toucher votre public et qui fait de la peine à tout le monde en ce moment. J'aimerais qu'on vous entende là-dessus. Vous êtes concerné avec Thomas Sisley, Gad Elmaleh, Malik Bentala, parfois au mot près, des sketchs diffusés à la télévision américaine plusieurs années avant les spectacles des humoristes français. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Ah, franchement, je peux vous dire que évidemment qu'on s'inspire de tout ce qu'il y a autour de nous, évidemment qu'on est des éponges. En ce qui me concerne, je me suis jamais calqué sur qui que ce soit. J'ai une vie. Il s'avère que celle de Dave Chappelle, puisque c'est à lui qu'on me compare, est pas loin de la mienne. Maintenant, je vous dis oui, évidemment, sciemment ou inconsciemment, on doit le faire. Sur une vanne ou deux maximum, mais on peut pas réduire un artiste à deux vannes ou à trois vannes, c'est pas possible. Ça fait 25 ans que je monte sur scène. Oui, oui. J'en suis à mon 5e spectacle, à mon 10e film, à mon 8e festival. J'écris des textes à longueur d'année, de journée. Je m'inspire de moi et de ce qui m'entoure. Et évidemment, comme on peut laisser traîner une oreille, mais ça, on peut pas réduire un artiste à ça, c'est pas possible.
Je pensais que c'était très important qu'on vous entende là-dessus, mais vous comprenez que ça a pu choquer une partie de votre public qui vous est affectivement attaché.
Mais bien sûr, évidemment. Non seulement je le comprends, moi le premier, je suis interloqué parce que j'ai dû le faire sans m'en rendre compte. Il faut savoir qu'on a des auteurs avec qui on travaille et que chacun est inspiré à sa manière, chacun sa vie. Et nos auteurs nous influencent. Évidemment, nous on se laisse influencer aussi, donc tout ça est naturel pour moi, et surtout c'est pas condamnable. On peut raconter les mêmes choses que nos voisins anglo-saxons, mais avec notre style, ce qui fait notre sel, notre son d'une certaine manière. Mais vraiment, je pense qu'il faut pas réduire les artistes à ça, parce que c'est tellement compliqué de créer, c'est tellement compliqué d'être singulier. Il y a rien de plus dur que de tenter d'être singulier, tu vois. Rester au plus proche de soi, finalement, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et on l'a reproché à Molière, donc c'est presque flatteur.
Et ce soir, au Jamel, vous êtes là très très singulier, et vraiment, c'est là où vous êtes êtes le plus brillant, Jamel.
Merci beaucoup. Merci, merci. J'ai bien fait de venir ce matin.
Elle est bien, cette Monique.
Je l'aime beaucoup.
Non,
moi.
Mais j'ai adoré ce spectacle, il faut quand même le dire.
Ah, t'es gentil, Monique.
Oui, elle nous l'a dit, elle est en transe. Maintenant au Jamel, le nouveau spectacle de Jamel Debbouze en tournée en France avant d'atterrir à La Cigale en décembre.
Après décembre, vous partez en tournée dans tous les Zéniths de France?
Exactement.
Et après, jusqu'en avril 2018, on m'a dit « retour au casino ».
Retour au casino de Paris, parce que c'est ma maison.
En décembre 2018.
Exactement. Écoutez, c'est la fin là, de cette émission.
Enfin, c'est un bon couscous aussi.
Oui, c'est vrai, exactement. je peux vous dire que j'ai trouvé cette interview super.
Nous, on est heureux de vous accueillir. Vous savez que vous êtes ici chez vous.
Merci beaucoup.
Bonne journée, Jamel. Ah, ce Jamel, il est ici chez lui. On sera très heureux de le retrouver le plus rapidement possible. Dans quelques instants, nous parlons télévision avec mademoiselle Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Nous allons parler télévision en deux temps. On commence bien entendu par les audiences avec Médiamétrie, Isabelle.
Eh bien, bon redémarrage pour les inédits de Camping Paradis. 5 200 000 téléspectateurs et 21% du public sont sur la une. Mais Broadchurch a une bonne fin, si j'ose dire. 4 710 000, près de 4 800 000 téléspectateurs et 19% du public sur la 2. C'est un très beau score, d'autant que cette troisième saison n'a pas été du tout médiatisée. Et alors, remonte légèrement, Marié au premier regard sur M6, 2 400 000 téléspectateurs. Mais tout de même, 1 400 000 Nostalgique était devant Quai des Orfèvres sur Arte, juste devant Hunger Games sur C8, 1 300 000.
On parle de notre soirée télévisée maintenant. Alors, évidemment, il y a le match Allemagne-France sur TF1, Club Lisa, hein, de 20h à minuit, bien entendu, sur RTL. Et puis, le meilleur pâtissier sur M6. Mais vous vous intéressez, vous, à Stéphane Bern et à son secret d'histoire sur France 2.
Oui, rediffusion d'une spéciale sur Louis XIV, de même qu'une rediffusion Le Polar de la 3. C'est plus prudent face au match. Alors, Stéphane Bern, nommé monsieur patrimoine par Emmanuel Macron, assume. Et de toute façon, le téléspectateur n'avait sûrement pas tout mémorisé en 2015.
Oui, c'est sans doute, j'allais dire, le best-seller de secret d'histoire. Jésus, les Grimaldi et le Louis XIV. Secret d'histoire se modifie aussi. On n'a pas un regard extatique sur le grand roi et le grand siècle. Est-ce qu'il n'a pas trop aimé la guerre? On peut le regarder avec un regard plus critique, notamment sur la révocation de l'édit de Nantes, la fin de la pacification entre les catholiques et les protestants. En plus, Secret d'histoire est en train de célébrer son 10e anniversaire. C'est rare sur le service public d'avoir une émission qui fonctionne autant 10 ans après. Il y a des drones qui sont arrivés. Donc vous avez une manière de filmer le château de Versailles qui est unique. En plus, j'ai pu tourner dans toutes les pièces. Et puis, secret d'histoire, c'est pas tellement moi qui suis à l'honneur. Ce sont plutôt les historiens. C'est pour ça que les historiens, d'une manière générale, me tapent pas trop dessus, parce que je m'efface devant eux. Mais si vous voulez mon opinion sur Louis XIV, eh bien, il était grand par les gens qu'il a rassemblés. La Fontaine, Le Vau, Le Brun, Le Nôtre, La Quintinie, Vauban, Corneille, Racine, Molière, évidemment.
Alors oui, nous disions qu'il était intelligent et cultivé.
Tout à fait. Et Louis XIV et Stéphane Bern. Alors Stéphane Bern, les historiens ne vous tapent pas dessus, mais alors les autres, en revanche.
Oui, je finis par me demander si j'ai eu raison d'accepter une mission pour défendre le patrimoine. Je vais être très honnête avec vous. Je suis bénévole. Je fais ça à mes frais. Je vais le Tour de France pour essayer d'aider et tout le monde me tape dessus. Peut-être devrais-je renoncer. Je ferais mieux d'être un animateur télé et animateur radio aussi, qui gagne convenablement sa vie et qui garde tout pour lui. Mais non, moi j'ai tout remis en jeu. J'ai d'abord sauvé un monument. Maintenant, j'essaye d'aller sauver les autres. Non, c'est pas un château, c'est un collège. On est plus dans la transmission que dans la possession. Donc j'ai des moments de découragement. Vous avez le sentiment de servir votre pays, de l'aider, et les gens vous en veulent, comme si le bénévolat était suspect, et puis on pense que c'est par copinage avec le président, mais je n'ai pas attendu pour m'occuper du patrimoine. Ça fait 30 ans que je m'investis, donc c'est un peu désespérant parfois, mais en même temps il y a des moments merveilleux où vous voyez les gens qui sont sur le terrain, qui vous remercient de mettre un peu en lumière le travail ingrat qu'ils font au quotidien, et puis on peut lancer des idées aussi, mais franchement, si c'était à refaire, je ne sais pas.
Non mais dites donc, Isabelle, on ne confond pas collège et château.
Oui, on ne confond pas. Non. On ne confond pas. Alors, vous l'avez entendu hier soir, il propose de faire payer 2 euros l'entrée des cathédrales aux touristes, évidemment, pas aux fidèles qui tentent de prier. Mais Stéphane Bern note que les tours opérateurs, eux, font payer ce qui est gratuit.
Eh oui, je peux vous révéler cela. Vous savez que le Louvre et un certain nombre de musées sont gratuits le premier dimanche chaque mois, mais c'est quand même facturé par les tours opérateurs aux touristes. Donc les touristes ont le sentiment qu'ils payent leur visite. En fait, c'est gratuit, mais les tours opérateurs se goinfrent sur le dos des touristes.
Alors, côté histoire, notez sur Arte le portrait glaçant d'un monstre glacial, Himmler, l'artisan de la solution finale. Et côté fiction, il faut quand même signaler sur C8 le début de la saison 2 du formidable feuilleton Dr Foster. Une mère de famille voit s'installer à côté de chez elle le mari infidèle dont elle a divorcé et qui vient de se remarier. Personne ne va être à la noce. C'est plutôt noir, c'est acide, c'est formidable.
Personne ne va être à la noce, si nous, dans quelques instants, pour Julien Courbet.
Vous écoutez RTL.